Studio Kalangu se poursuivent. Bienvenue dans ce journal en français. Présentation Nefissa Adam Sirfou. Les titres de ce journal, la 28e édition des Jeux Olympiques sera officiellement lancée ce soir à Rio de Janeiro au Brésil. Vous entendrez parler de l'histoire du Niger par rapport aux Jeux Olympiques et les avis des citoyens sur la participation des athlètes nigériens à ces Jeux. La 28e édition des Jeux Olympiques encore en piste à plus de 10 000 sportifs, dont 6 Nigériens dans 4 disciplines, le judo, le taekwondo, la natation et le 400 mètres, à suivre le portrait de ces athlètes dans ce journal. Le niveau du fleuve Niger inquiète les populations riveraines. Vous entendrez le cri de cœur des riverains et les mesures prises par les autorités communales du 5e arrondissement de Niamey dans la partie magazine de ce soir. Bonsoir à tous. Parlons d'abord de l'histoire du Niger et de ses relations avec les Jeux Olympiques. Un homme symbolise la participation du Niger aux Jeux Olympiques. Il s'appelle Issaka Daboré. Faisons le point avec Habibou Garba.
Issaka Daboré est un boxeur nigérien né en 1940. Il a participé à 3 reprises aux Jeux Olympiques en 1964, 1968 et 1972. Lors de ces derniers, il a remporté la médaille de bronze de boxe, catégorie super léger, et devenu à cette occasion le premier athlète nigérien à monter sur un podium olympique. En 1976 et 1980, le Niger a décidé de suivre des mots d'ordre de boycott, mais depuis la participation nigérienne constante. En 2012, lors de leur 11e participation aux Jeux Olympiques d'été de 2012 à Londres au Royaume-Uni, les Nigériens ont beaucoup misé sur le judoka Zakari Guruza. Mais celui a hélas été éliminé en 8e de finale. Aujourd'hui, ils sont 6 à porter les couleurs nationales. Ils ont rendez-vous ce soir à Rio. Cette nuit, heure de Niamey, sur la piste du stade de Maracana à Rio pour le défilé des délégations. C'est Issoufou Alfaga Abdurazak, champion de taekwondo, qui portera les couleurs nationales.
Ils sont 6 athlètes à représenter le Niger dans 4 disciplines, le judo, le taekwondo, la natation et les 400 mètres. Gunguma Hamandantani nous donne plus de détails.
Pour l'épreuve du 400 mètres dames, c'est Mariama Itatou qui défendra les couleurs du Niger. Elle a fait ses premiers pas dans la discipline en 2013. Après avoir disputé presque toutes les compétitions nationales et sous-régionales, elle a participé en août 2014 aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Najim en République Populaire de Chine. Le deuxième coureur athlète est Ousseini Jibo, coureur de 400 mètres comme Itatou. Ousseini a fait ses débuts dans l'athlétisme au CS Lazare, où il était élève en classe de 5e en 2007. Il s'est aussi initié aux 800, 1500 et 3000 mètres et participer au championnat national et aux compétitions internationales. En natation, on suivra avec attention Mokhtar Al-Bashir qui a débuté en septembre 2012 à la piscine olympique d'État à Niamey et qui très vite s'est imposé sans difficulté lors des compétitions nationales auxquelles il a participé. En 2014 au Qatar, il a même amélioré son record. La nageuse Rukaya Moussa Maïga, elle, a commencé à pratiquer ce sport en 2013 à la piscine olympique d'État. Depuis, elle peut se vanter d'une bonne expérience des compétitions internationales 2015 à Kazan en Russie et les tournois de la zone 2 de Dakar. Enfin, le Niger compte beaucoup en judo dans la catégorie 73 kg sur Ahmed Goumour et en taekwondo sur Issoufou Alfaga Abdelrazak, porte-étendard de la délégation nationale à Rio de Janeiro. Ceinture noire, deuxième dan, Issoufou Alfaga Abdelrazak occupe actuellement le 11e rang au classement mondial de taekwondo et le 2e rang en Afrique. Gungu Mahaman, Studio Kalangu.
Place à présent aux avis des citoyens par rapport à la participation des athlètes nigériens aux Jeux Olympiques Rio 2016. Moutari Mahamadou a rencontré quelques citoyens de la ville de Niamey. Écoutons ce qu'ils en pensent et leurs souhaits.
Mon souhait, le Niger c'est mon pays. Je souhaite que tous les athlètes de mon pays ramènent une médaille en or pour honorer le nom de mon pays dehors. Nous ne sommes pas partis pour figurer, nous sommes partis pour compétir, pour devenir quelqu'un, pour amener de la médaille chez nous. Sincèrement, je voudrais compter sur tous les athlètes, mais vraiment il y a l'exception. Monsieur Alphaga, je compte à 100% sur lui, qu'il va avoir la médaille en or.
Bon, nos attentes ne sont pas énormes. On sait que nous sommes partis pour apprendre. On va essayer d'être un bon élève et bien apprendre. Sinon, sincèrement, on ne peut pas espérer que de l'apprentissage. Vu le niveau des autres athlètes, on ne peut qu'espérer de l'apprentissage, rien que ça. Il y a un seul athlète sur lequel tout le peuple du Niger compte, c'est Alphaga. Personnellement, je ne l'ai jamais vu en train de compétir, mais avec vous, les journalistes et ses supporters, on ne parle que de bien de lui. Donc, je lui souhaite beaucoup de chance.
On va leur souhaiter vraiment beaucoup de chance. On espère que parmi eux, il y en a qui vont nous apporter une médaille, quoi. Parce que depuis, si j'ai bonne mémoire, Issa Daboré, qui a décroché une médaille de bronze, je crois, aux Jeux Olympiques, le Niger n'a jamais brillé. Donc, on espère vivement une médaille pour le Niger. Les autres, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, moi, je ne savais même pas qu'il y avait 6. Moi, pour moi, il y avait seulement Alphaga qui représentait le Niger. Donc, ça veut dire que c'est lui qui est très connu. Il paraît qu'il est champion d'Afrique. Donc, il a tout notre soutien et on compte beaucoup sur lui. Il doit savoir que tout un peuple est derrière lui et on va le soutenir jusqu'à la fin pour qu'il puisse triompher.
Qui dirige Boko Haram, selon l'hebdomadaire de propagande du groupe État islamique Abu Musab al-Barnawi, serait le nouveau chef du groupe terroriste. Il remplacerait Abu Bakar Shekau qui dirigeait Boko Haram depuis 2009. L'information a été reprise par plusieurs médias internationaux. Cependant, dans un message audio diffusé ce mardi sur Internet et les réseaux sociaux, Abu Bakar Shekau conteste son limogeage et dénonce un complot contre lui, orchestré par al-Barnawi et ses disciples. Le syndicat national des fonctionnaires et contractuels de l'éducation de base a organisé ce vendredi une séance de lecture coranique à Niamey et à l'intérieur du pays. Écoutez le secrétaire général du SINASEB, Munkaila Halidou, au micro de Mokhtar Amadou.
Ce matin, le Ben Sinaseb avec les sections de la région de Niamey se sont retrouvés pour une séance de lecture du Saint-Coran. Cette lecture, nous l'avions faite pour implorer la bénédiction de Dieu par rapport à toutes ces humiliations, par rapport à tous ces problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, notamment par rapport à la gestion des arriérés de pécules de nos camarades, mais également toutes les autres revendications que nous avons, notamment le paiement à terme issu des pécules, la question des matricules qui attendaient depuis 2 ans et les recrutements qui devraient intervenir en 2015 et 2016. Mais aussi, si nous avions fait cette séance, c'est effectivement pour chercher l'aide de Dieu par rapport, en tout cas, à toutes ces dérives que nous sommes en train de constater. Vous avez quand même vu les dernières violations de la loi de la part du ministre de l'Enseignement primaire qui a pris un arrêté pour vouloir transférer la gestion des enseignants contractuels au niveau des collectivités, alors même qu'aujourd'hui, les contractuels sont régis par le statut de la fonction publique qui est une loi. On ne peut pas aujourd'hui, dans un état sérieux, prendre un arrêté pour vouloir modifier des dispositions d'une loi qui se trouve être, en tout cas, le statut de la fonction publique.
Et à Tillabéri, manifestation hier matin des syndicats membres de la Convergence pour une action unitaire des syndicats de l'enseignement cause. La cause exige du gouvernement notamment le paiement sans délai de tous les arriérés de pécules des mois d'avril, mai, juin et juillet. Le coordinateur de la section de Tillabéri de la cause, Issa Maman, au micro de notre correspondant Issa Karimou.
Dans nos revendications, nous avons parlé de justice. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand tu prends toutes les régions, c'est Tillabéri seulement qui a jusqu'à 4 à 5 mois d'arriérés. Sinon, toutes les régions n'ont pas ces arriérés-là. Donc voilà pourquoi nous avons payé, nous avons parlé de juillet. Et de surcroît, Niamey a même payé juillet. Et alors, quelle est la différence qu'il y a entre le contracteur de Niamey et le contracteur de Tillabéri? Quelle différence y a-t-il entre le contracteur des autres régions et le contracteur de Tillabéri? Et pourquoi on fait souffrir le contracteur de Tillabéri? Voilà pourquoi nous avons parlé de justice. Et nous sommes contre ces gens de justice parce qu'ils émergent sur des États et c'est l'État qui doit les payer. Alors donc on doit les payer au même pied d'égalité. Les temps disent que les syndicats ne font rien. Voilà pourquoi la cause a décidé de faire une marche pacifique pour se faire entendre. Et pour faire entendre maintenant la voix de ces militants-là qui sont en train de souffrir dans nos chairs.
Vous venez d'écouter le coordinateur de la section cause Tillabéri, Issa Kamaman, sur leur manifestation d'hier matin. mot d'ordre du marché fermé pour le 8 août lancé par le syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger Sienne et le syndicat national des agents de transit SINAT. Ils entendent protester contre la convention attribuant à la société Niger Terminal du groupe Bolloré la concession des magasins sous-douane de Niamey et de Dosso. La situation nutritionnelle du Niger est passée de 2005 à 2016 du niveau d'alerte au seuil d'urgence de l'OMS avec 15% de taux de malnutrition aiguë globale. Une situation qui ne fait que s'empirer avec l'insécurité et les catastrophes naturelles dans certaines régions. Hier, le réseau de la société civile pour le mouvement Scaling Up Nutrition s'est penché sur la question de la nutrition à travers une rencontre d'échange sur le niveau des engagements de l'État en faveur de la nutrition. Le point avec Dr Garba Ndano Ibrahim, chef du projet.
Les régions les plus concernées, je dirais, c'est tout le Niger un peu, mais il y a des régions qui sont plus touchées. Si vous prenez l'exemple de Diffa, avec la situation des déplacements des populations qui ont laissé leur moyen d'existence, c'est normal que ces populations aujourd'hui aient besoin d'assistance alimentaire. Si vous prenez aussi des régions comme les régions de Maradi, Diffa, qui sont connues déjà pour les questions de sous-nutrition, aujourd'hui vous avez vu à la Grèce, la situation elle est bonne, mais avec les situations d'inondation qui sont en train d'arriver, ça peut engendrer beaucoup de problèmes. En 2013, le sommet Nutrition pour la croissance, le Niger a eu à prendre des engagements dans, entre autres, la réduction de la malnutrition aiguë globale de 13,3 à 10%. Et ce taux est passé de 13,13 en 2013 à 15% aujourd'hui. Donc ça veut dire que les choses ne s'améliorent pas. Nous avons demandé par exemple à l'État de voir les institutions comme la CDAO, comme le CILS pour qu'il y ait des engagements forts dans le domaine de la nutrition. Nous avons demandé aussi à l'État d'allouer au moins, au minimum, 3% du budget à la nutrition. Parce que vous savez, aujourd'hui, la question de la malnutrition, c'est un problème multisectoriel. Déjà, il y a la politique nationale de sécurité nutritionnelle et nous avons demandé à l'État de tout faire pour que cette politique soit financée dans le bref délai et qu'elle soit mise en œuvre.
C'était la Garba Ndano sur les engagements de l'État en faveur de la nutrition. À présent, nous allons marquer une petite pause.
Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangou.
J'aime et je partage.
La partie magazine de ce soir, depuis un certain temps, les eaux du fleuve du Niger sont montées. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur le quotidien des riverains. À Goudel, par exemple, dans la périphérie de Niamey, où notre reporter Habibou Garba s'est rendu ce matin, la population ne sait plus à quel sens se vouer. Écoutons le cri de cœur de Moussa Kalam, un riverain.
Cette année, les eaux sont montées et ont même commencé à faire des dégâts. Ces eaux viennent des affluents du fleuve Niger. Les digues ne peuvent pas empêcher l'eau de venir jusqu'ici. Au niveau de certains endroits, l'eau a emporté des animaux. Il y a une île qui s'appelait Banga. Elle est actuellement remplie d'eau. Il y a longtemps qu'on n'a pas vécu cette situation. Aujourd'hui, nous sommes le 5 août et vous voyez le niveau du fleuve. Les autorités font de leur mieux. Elles sont en train de construire des digues de protection. Cependant, elles doivent anticiper car ce n'est pas pendant la saison des pluies seulement qu'il faut le faire. Nous sommes des pauvres. Ce que nous pouvons faire, c'est d'implorer la miséricorde de Dieu. Car quelqu'un qui n'a pas où aller, il ne peut rien faire. On va implorer sa miséricorde. Il va nous aider.
Face donc à cette situation, quelles sont les mesures prises par les autorités communales du 5e arrondissement de Niamey? À propos, Gungu Mahaman Dantani s'est entretenu avec Jibo Boubacar, secrétaire général du 5e arrondissement.
L'inondation de Niamey est due en grande partie aux crues provenant d'en haut, c'est-à-dire de la Sirba et des autres affluents qui sont en amont de Niamey. Ce matin, l'eau est au niveau de la digue route. Ça veut dire que la digue qui devait servir de protection à la digue route a cédé, mais la digue route, elle n'a pas cédé. Pour le moment, l'eau n'est pas rentrée dans la ville. Elle est au pied de la digue route. Et si la digue route tient, ça veut dire qu'il n'y aura pas de danger. Mais ça m'étonne fort que la digue route puisse tenir pendant longtemps. L'eau s'est retirée ce matin, la côte est revenue à 514 alors que hier elle était à 544. Ça va permettre à Sato de continuer les travaux. Nous avons demandé à tous ceux qui sont au niveau de la zone inondable de se préparer pour quitter les lieux parce que cette population n'est pas en sécurité. On a vécu les trucs de 2012 et de 2013, donc vraiment on ne veut pas que ces populations se trouvent en danger, surtout que le fleuve ne prévient pas.
C'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.